initiation à la musique tunisienne.
Le naï est une flûte de roseau ouverte aux deux bouts comme une flûte traversière. Il n'a ni bec ni hanche. Le joueur en appuie le bout de l'embouchure sur sa lèvre inférieure en penchant un peu la tête et il en maintient le tube à un angle d'à peu près 20 ou 30 degrés par rapport à la verticale. Le tube de 60 à 80 cm de long est coupé dans la partie droite d'une tige de roseau parvenue au terme de sa croissance où les entre-nœuds sont de longueur à peu près égale et où le diamètre intérieur est uniforme.
Si la taille du tuyau est variable, elle l'est cependant dans des limites restreintes, étant en principe déterminée par la longueur des entre-nœuds qui doivent toujours être au nombre de 9. La tige de roseau a été soigneusement nettoyée à l'intérieur et notamment débarrassée de tous les disques membraneux transversaux qui en obstruent le canal au niveau des nœuds, à l'exception toutefois du disque du nœud de celui des deux bouts qui doit servir d'embouchure. Ce nœud a été coupé en biseau sur la périphérie de son bord extérieur et au milieu de sa membrane circulaire, on a découpé un petit disque en laissant adhérer à la paroi du tube une rondelle destinée à vibrer sous le choc du souffle du joueur.
Pour offrir au souffle un biseau toujours plus tranchant, ce que ne permet pas la fibre fragile et usable du roseau, le tube du naï est parfois doté, en guise d'embouchure, d'une petite rallonge en corne ou en ivoire, de même diamètre intérieur. Taillée en biseau, cette pièce rapportée a généralement la forme d'un cône tronqué dont la base dépasse légèrement la paroi externe du tube. Son profil est parfois celui de deux cônes tronqués opposés par la base.
L'instrument est percé de 7 trous latéraux, dont 6 sur la face supérieure, celle de devant, le 7e étant ouvert sur la face inférieure, celle de derrière. Les 6 ouvertures de devant sont réparties en 2 groupes de 3 trous équidistants chacun, les 2 groupes étant séparés par une distance double de celle qui sépare les trous de chaque groupe. Le percement des trous est opéré selon un canon empirique, d'après des recettes variables, mettant dans tout au même dispositif de 2 groupes distincts, de 3 trous équidistants chacun.
Le naï a été réintroduit dans l'orchestre classique tunisien en 1931 par le cheikh Ali Derwish de l'ordre des Maoulewi d'Alep. Tous les joueurs de naï tunisiens, aujourd'hui en exercice, ont été directement ou indirectement ses élèves. La recette qu'ils appliquent pour la perforation du tube est celle qui leur a été prescrite par ce maître. Elle se résume comme il suit. Le 7e trou, celui d'arrière, est percé de telle façon que son centre coïncide exactement avec le milieu de la totalité du tube. La 2e moitié du tube, la moitié antérieure, celle qui se termine par le bout opposé à l'embouchure, et ensuite partagée en 12 segments d'égale longueur, à la limite exacte du troisième segment, compté du trou de dessous, autrement dit à compter de l'embouchure, et percer le premier des 6 trous de devant, soit le premier du premier groupe de 3. À la limite du quatrième segment, et percer le deuxième trou, suivi du troisième à la limite du cinquième segment. La limite du sixième segment reste intacte. Puis, aux limites des septième, huitième et neuvième segments, sont percés les 3 trous du deuxième groupe. Le diamètre intérieur du tube est d'1,5 cm environ. Celui des trous latéraux est de 3 ou 4 mm.
C'est cette disposition des ouvertures du nez, alignées en 2 suites distinctes, nettement séparées de 3 trous chacune, dans le parcours de la moitié antérieure du tube, c'est cet arrangement qui distingue cet instrument citadin de son congénère des campagnes. Sur ce dernier, en effet, les ouvertures sont alignées dans une seule suite et percées non pas dans la deuxième, mais dans la première moitié du tube, celle qui se termine par le bout servant d'embouchure. Étant passé entre les parois dures et lisses de la première moitié du tube, l'air insufflé par le joueur arrive aux ouvertures d'échappement du nail, débarrassé d'une partie de son humidité, étassé en une colonne compacte. Il s'écoule donc en un jet régulier, sans secousse, pour produire un son au débit uniforme, moelleux et un peu sifflant, en tout cas différent de celui de la flûte champêtre, grave et susurrant.
Le nai figure aujourd'hui dans l'orchestre classique arabe à côté du luth, le doyen, et des autres instruments à cordes auxquels il dispute le titre de brillant second. Son accession à cet honneur est cependant assez récente. Il lui a fallu en effet beaucoup plus de temps que ses partenaires pour se dépouiller de sa technique archaïque et se mettre à la hauteur de cette suprême dignité. La promotion du nai au titre d'instrument classique ne date en effet que de la fin du XIIIe siècle, époque où il se signala à l'esprit de Jalaluddin Rumi, le grand poète mystique, 1207-1273, qui lui dut sa première extase, sa première révélation. Celle du luth est plus ancienne. Il fut, lui, le premier à être admis au VIIe siècle au service de la musique artistique arabe, d'inspiration persane et byzantine, alors au premier stade de son essor.
Le luth s'était révélé, aux premiers essais, apte à s'adapter aux besoins de la nouvelle musique que ses promoteurs voulaient précise, maniérée et alambiquée. On peut même dire qu'il fut à l'origine de toutes ces subtilités. Il n'en fut pas de même pour le nai. Par sa conception et par sa constitution naturelle, le nai était inapte à s'adapter aux nouvelles normes. Il devait passer un très long stage avant de parvenir à satisfaire aux exigences du nouvel art. Il devait aussi et surtout parvenir à surmonter un obstacle d'ordre psychologique qui en éloignait l'élite des musiciens. Il devait vaincre un préjugé défavorable inhérent à son extraction bédouine et pastorale, méprisé des dilettantes et de la haute société des villes qui monopolisait le patronage des arts.
Dans cette compétition à la dignité de servir la nouvelle musique, Le Nail partait désavantagé. D'aspect rudimentaire, fait dans une simple tige de roseau, sans ornement ni accessoires pouvant attirer sur lui l'attention ou rappeler une construction laborieuse, rien ne révèle dans cet instrument l'effet d'un effort d'intelligence artisanale pouvant frapper l'imagination, la curiosité ou l'intérêt. Comme il était, Le Nail ne différait absolument en rien, en apparence, de la tige de roseau de laquelle un homme des temps primitifs avait tiré, à son grand étonnement, le premier son musical, et découvrant ainsi ce que fut le premier balbutiement de la musique instrumentale.
Une flûte percée de quelques trous, selon un canon variable et mal déterminé, qui permettait toutefois d'en extraire quelques successions mélodiques simples et quelque peu cohérentes, une telle flûte a de tout temps été connue des Arabes sous le nom de gosba, qui signifie simplement roseau. Elle est même et certainement le plus ancien instrument de leur musique, comme elle est du reste, semble-t-il, le premier instrument musical de toute l'humanité. Écoutons la gosba.
Lorsqu'au cours du 7e siècle, les Arabes eurent des contacts permanents avec les Persans, puis des rapports plus intimes, ils trouvèrent chez ces peuples civilisés, depuis déjà fort longtemps, la même flûte que leur gasba, que l'on appelait Nail, d'un nom signifiant lui aussi roseau. De leur roseau, les Persans tiraient cependant une musique savante et autrement maniérée que la leur, rudimentaire et archaïque, et cela simplement grâce à un système spécial d'ouverture et à un mode spécial de dosage et de direction du souffle. Les Arabes leur empruntèrent leur méthode et, comme pour se convaincre de l'accession de leur gasba à la dignité d'instrument artistique, ils se hâtèrent de troquer son nom contre celui de Nail qui, pour signifier la même chose, n'en constituait pas moins à leurs yeux un titre de noblesse.
Pour avoir changé de nom, perfectionner sa facture et améliorer ses performances, la flûte de roseau resta pendant longtemps encore mésestimée des connaisseurs de la haute société. Ces derniers étaient du reste encouragés dans leur indifférence à l'égard de cet instrument par les joueurs de luth qui accaparèrent pendant de longs siècles l'intérêt des auditoires arabes en se réservant le monopole d'accompagner les grands chanteurs. Or, les Arabes n'avaient jamais conçu de musique sans chant. Le mot « musique » est du reste étranger à leur langue. Le mot « rana », qui signifie « chant », en tient régulièrement lieu. Malgré cet ostracisme, cette exclusive tacite, ce mépris que les gens bien se croyaient obligés d'afficher pour la flûte de roseau, le Nail ne manqua pas d'amateurs parmi les classes cultivées qui, depuis la fin du IXe siècle, commençaient à s'intéresser à une sorte de romantisme révolutionnaire dans le domaine des arts. Des hommes célèbres par leur rang, comme le prince Yacoub, le jeune frère du grand Haroun al-Rachid, ou par leur position dans la hiérarchie des arts, comme le fameux Esrak el-Mawsili, le théoricien du jeu du luth, l'animateur officiel des divertissements de la cour, de tels personnages conservateurs de par leur situation sociale, se laissèrent charmer par le naï. Ils en avaient fait leur violon dingue et en jouaient un peu clandestinement dans l'intimité de leurs appartements pour eux-mêmes et leurs proches amis.
Il en fut ainsi jusqu'à la fin du XIIIe siècle, époque à laquelle l'instrument proscrit fut adopté par Jalaleddin Rumi, le grand mystique, qui fut fasciné par sa musique dans laquelle il avait découvert, fortuitement, un charme transcendant. En chantant l'humble roseau dans les premiers vers de son grand poème, le fameux Mathnawi, le saint homme en prescrivit tacitement l'usage rituel à ses disciples de tous les temps. Les adeptes de Jalaluddin, qu'ils appelaient Maulana ou Notre Maître, s'étaient organisés en un grand ordre, celui des Maulawi. Les Maulawi, qui sont connus en Europe sous le nom de Derwish Tourneur, à cause de leurs danses rituelles qui consistent en des mouvements combinés de rotation et de translation avec le gros orteil du pied droit comme pivot. Les monastères de cette grande confrérie sont disséminés un peu partout dans le Proche et le Moyen-Orient, autour de la maison mère qui se trouve à Konya en Asie mineure. Lieu de retraite et d'études, ils ont joué jusqu'à ces derniers temps le rôle de conservatoire de musique. Leur enseignement et leur tradition artistique étaient respectés et scrupuleusement suivis par les musiciens de la plupart des peuples arabes.
Pour honorer la mémoire de leur patron, les Maulawi firent du naï leur fétiche et le symbole de leur ordre. Ils le prirent en main et se penchèrent sur l'humble roseau avec une sollicitude de zélateur. Pendant plusieurs générations, ils s'employèrent à en étudier minutieusement le doigté et le processus de la production du son, les efforts conjugués de plusieurs générations de ces ermites travaillant dans l'anonymat, dans l'ombre des monastères, ont à la longue abouti à l'élaboration d'une méthode raisonnée du jeu du naï. La distribution du souffle, le doigté, les angles d'inclinaison du tube, tout ce qui touche de près à la production du son, fut plus d'une fois mesuré, réglementé. Toute une technique savante et précise fut mise sur pied. Elle ne comportait qu'un seul défaut, celui qu'aucune codification écrite ne pouvait en exprimer les modalités d'application avec toute la précision requise. Elle ne peut être transmise que par l'exemple et l'enseignement oral direct.
C'est cette technique qu'appliquent aujourd'hui les joueurs de naï turcs et arabes. Elle leur permet de jouer avec le maximum de précision les mélodies les plus compliquées et les nuances de tons les plus subtiles. Les musiciens européens, habitués à des instruments de facture savante et compliquée, ne peuvent qu'être surpris de voir tirer d'une simple tige de roseau des mélodies et même des accords d'exécution fort difficiles. Le joueur de naï est assis, les jambes croisées à la turque, ou sur un siège, les jambes pendantes et appuyées au sol, ou encore simplement debout. Quelle que soit sa station, il pose le bord inférieur de l'embouchure de son instrument un peu au-dessous de sa lèvre inférieure, puis, penchant la tête un peu vers la droite, il maintient le tube un peu incliné vers ce même côté pour former avec l'axe de son corps un angle d'à peu près 20 à 30 degrés. L'instrument se prend des deux mains, entre le pouce et le bout des doigts. Les doigts de la main gauche servent les trois premiers trous de devant à compter de l'embouchure, et son pouce le trou arrière, les doigts de la main droite étant réservés aux trois derniers trous de devant.
Les sons obtenus du tube, tout d'abord avec toutes ses ouvertures latérales bouchées, puis en les débouchant une à une et à tour de rôle, en commençant par la plus éloignée de l'embouchure, les sons doivent en principe reproduire les degrés de la gamme fondamentale arabe, avec ses tierces et ses sixtes spéciales, c'est-à-dire diminuées d'un quart de ton environ par rapport à la tierce et à la sixte majeure de la gamme européenne. Toutes les autres nuances de ton sont obtenues par le jeu du doigté et par la modification de la direction du souffle. En débouchant tel trou à la fois, en maintenant tel ou tel autre ouvert en partie, en inclinant la tête de tel ou tel côté et à tel ou tel angle à compter de la verticale, on arrive à reproduire exactement toutes les modulations exigées par la mélodie arabe.
L'étendue des sons du naï est d'une seule octave pour une même force de souffle. En augmentant progressivement la force du souffle, on doit arriver en principe à transposer ces mêmes sons chaque fois à une octave supérieure. Dans la pratique, cependant, les joueurs de naï n'utilisent jamais plus de trois forces bien distinctes sans obtenir du reste avec cela trois octaves tout à fait complètes. Le registre du naï ne coïncide pas toujours avec celui de la voix humaine. Pour éviter les transpositions laborieuses et toujours hasardeuses sur un instrument au jeu si difficile, les professionnels, constamment appelés à accompagner des chanteurs, ont toujours à leur disposition une série de naï de différents registres. La série classique est de sept tonalités que les Turcs désignent par sept noms différents. Les artistes tunisiens n'en emploient généralement que quatre, désignés par le nom de leur note fondamentale, celle qu'ils produisent avec toutes les ouvertures bouchées, soit do, fa, si bémol, mi bémol. La batterie de l'orchestre classique tunisien se compose de deux instruments à percussion aux formes bien caractérisées, demeurées depuis fort longtemps invariables. Le premier est le tar, ou tambour de basque, monté de petites cymbalettes que l'on tient de la main gauche et que l'on bat à l'aide des doigts des deux mains et du plat de la main droite. Le deuxième instrument est constitué par une paire de petites timbales appelées narrat que l'on percute à l'aide d'une mince baguette.
Le rythme battu sur les narrat constitue un fond sonore sur lequel s'appuie la mélodie qui en épouse le relief et se façonne sur son modèle. Et par son jeu continu, le tar fractionne le temps de base pour donner un support aux fioritures et les empêcher de déborder le cadre de la ligne.
Depuis assez longtemps déjà, on voit cependant figurer dans les orchestres classiques un tambour populaire, la darbouka, soit pour remplacer les narrat, soit seulement pour accompagner les chansons et les danses populaires. Nous allons décrire chacun de ces instruments de la batterie de l'orchestre classique tunisien et vous les faire entendre en solo et en accompagnement d'un morceau de chant.
Le tar est en tout point semblable au tambour de basque des pays d'Europe. Il joue un rôle de premier plan dans la batterie des orchestres arabes, rôle assez semblable à celui du bâton du chef dans les orchestres européens. Voyons comment il est fait. C'est une lame de bois de hêtre, large d'à peu près 7 cm et recourbée en un cercle de 20 à 25 cm de diamètre. Sur le pourtour de ce cylindre sont pratiquées 5 fentes de 4 à 5 cm de long et assez larges pour recevoir chacune une paire de cymbalettes découpées à l'emporte-pièce dans une plaque de cuivre. De forme ronde et légèrement convexe, les cymbalettes se meuvent autour et le long d'un pivot de fil de laiton qui en traverse le centre. Chaque paire de cymbalettes est parfois doublée par une autre insérée dans une fente parallèle à la sienne. Sur ce tambour, une peau de chèvre, crue et soigneusement raclée comme un parchemin, est tendue et rabattue sur les bords où elle est solidement collée.
Pour jouer du tar, le musicien prend l'instrument dans la main gauche entre le pouce qu'il passe à l'intérieur du cercle ou qu'il introduit dans un petit trou pratiqué à cet effet sur la paroi du cylindre et l'index qu'il applique contre le bord de la peau tendue. L'instrument est maintenu, la membrane en avant, à la hauteur de la poitrine du joueur, dans une position perpendiculaire à la paume de la main et à peu près parallèle au corps. Par un mouvement du poignet, le joueur fait osciller l'instrument légèrement vers la droite, puis légèrement vers la gauche, produisant ainsi des secousses qui font s'entrechoquer les cymbalettes et leur font rendre des sons de castagnettes. L'agitation des petits disques de laiton est parfois provoquée par l'annulaire ou le médius du joueur allongé pour atteindre celles qui sont à leur portée. Le trémolo de ces castagnettes constitue une espèce de basse continue, une sorte de fond semblable à la chaîne et à la trame d'un tissu, à un canevas dont les points reçoivent les piqûres de l'aiguille d'un brodeur. Ces points figurent les temps forts et faibles du rythme.
C'est la main droite qui produira les temps forts, appelés tum, et les temps faibles, appelés tek. Pour ce faire, il y a plusieurs manières de procéder. La plus courante consiste à frapper les tek sur le bord de la peau avec le revers du pouce ou le bout des quatre doigts joints et les « toum » près du milieu du cercle, soit avec le plat des doigts joints, soit avec la paume de la main, soit avec le revers du pouce ou avec le bout des doigts joints. Une chiquenaude ou un coup frappé au centre de la peau avec le poing à demi fermé marque les grandes divisions du morceau en cours d'exécution et les changements de rythme ou de mouvement et, à souligner, les reprises d'orchestre. Le tar exige pour produire tous ses effets de l'habileté et de l'expérience, et notamment un poignet assez souple pour exécuter divers mouvements quelque peu compliqués, généralement à contre-temps, sans s'éloigner du mouvement et de la ligne générale du rythme que l'on mesure. On ne confie en général cet instrument qu'à un musicien consommé, éprouvé par une longue expérience, auquel on attribue le rôle de chef d'orchestre. Par la variété et l'allant de son jeu, le tar guide et soutient la voix et les instruments qui se laissent entraîner par son élan irrésistible.
Oh,
Les nagrats sont deux petites timbales réunies par deux lanières de cuir que l'on bat au moyen de deux petites baguettes de bois façonnées autour et terminées chacune par un petit enflement ovoïde. Les caisses de résonance sont constituées par deux petites écuelles en poterie ou en cuivre rouge de 15 à 20 cm de diamètre, de forme demi-sphérique ou demi-ovale, au bord droit et recouvertes chacune d'une membrane en peau de chèvre soigneusement raclée comme un parchemin. Le bord de la peau, rabattu et collé sur la paroi de l'écuelle, y est d'autre part maintenu par un lacet qui s'enroule en zigzag en passant alternativement par l'un des trous pratiqués sur la périphérie de la membrane et autour d'un collier qui enlace le bas du vase. Le joueur de nagrat, appelé nerzen, mot turc, tient les deux baguettes par le bout opposé à l'enflement, une dans chaque main, entre le pouce et l'index, les poings à demi fermés. Avec ses deux bâtonnets, il frappe les deux membranes vibrantes entre les centres et les bords, obtenant ainsi des sons d'une grande variété de timbres et d'intensités.
Les deux pouces sont accordés à peu près à la quinte. Pour maintenir ce rapport approximatif, l'une, généralement celle de gauche, qui doit produire les toum, ou son sourd, est légèrement mouillée à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau. L'autre, celle de droite, qui doit produire les tic, ou son grêle et sec, est chauffée par exposition à la chaleur d'un feu de brasero. Par la variété de timbres et d'intensité des sons obtenus, le jeu des nagrat constitue à lui seul une mélodie rudimentaire faite d'une riche gamme de nuances de relief sonore. Les nagrat jouent un rôle important dans les orchestres tunisiens de musique classique par les variations que le joueur improvise autour du rythme principal pour agrémenter l'accompagnement.
قلب صار
Quant à la darbouka, c'est une sorte de tambourin à une seule membrane et dont la partie inférieure est rétrécie en forme de colle, a ainsi l'aspect d'un vase renversé. C'est l'instrument d'accompagnement des orchestres de musique populaire, où il remplace les nagrats, la paire de timbales classiques. Très populaire en Tunisie, cet instrument à percussion a notamment la faveur des jeunes gens. Garçons et filles s'en servent dans leurs divertissements qu'ils organisent les uns ou les autres dans l'intimité des familles. Aucun amusement n'est concevable entre jeunes filles sans le concours de cet humble instrument. En quittant la maison paternelle, la mariée n'oublie jamais d'emporter avec son trousseau sa darbouka de jeune fille. Pour occuper leurs heures de loisir, les femmes taquinent la darbouka, se créant ainsi une ambiance de joie pour oublier leurs soucis.
La darbouka est constituée par un corps creux, généralement en terre cuite, brute ou émaillée. Il fut un temps où l'on en importait de Turquie qui sont en verre de Venise ou de Bohême. Le corps est façonné en forme de colle, se terminant par un large renflement qui lui-même se termine par un rebord droit, recouvert d'une peau crue de chèvre ou de mouton, soigneusement raclée comme un parchemin. Certains instrumentistes professionnels se servent d'une peau de poisson, d'autres d'une peau de chat. Solidement collée sur la paroi externe du rebord, la membrane y est maintenue par un lacet de fil de chanvre ou de soie qui s'enroule en zigzag, en passant alternativement par des trous pratiqués sur la périphérie de la peau et autour d'un cordonnet en lassant le renflement juste au-dessous de son plus grand diamètre. Les zigzags se croisent pour former des losanges et à leur point d'intersection, de petits pompons de soie sont attachés en guise d'ornement.
Le col, généralement de forme cylindrique, présente parfois un léger enflement. Parfois aussi, il s'évase à la base en un gracieux pavillon. Il se termine toujours par un rebord arrondi. Le grand renflement qui couronne le col et qui porte la peau affecte en général la forme d'une sphère parfaite ou aplatie et tronquée aux deux pôles. Son profil présente parfois cependant une courbe plus compliquée. Le corps de l'instrument est en général couvert de motifs décoratifs incisés dans la terre avant la cuisson à l'aide d'un stylet à section triangulaire ou carrée. Points, chevrons simples ou opposés par le sommet, losanges, filets, quinconces, hachures inclinées, zigzags et autres ornements géométriques, tels sont les éléments traditionnels de ce décor. Lorsque la terre cuite est émaillée, la couleur de l'émail est généralement le vert. Un petit trou pratiqué au bord du col permet d'accrocher l'instrument au mur avec une boucle de ficelle. Les dimensions de la darbouka sont variables, de 30 à 60 cm pour la hauteur totale et de 15 à 25 cm pour le plus grand diamètre du renflement.
Yeah.
Pour jouer de la darbouka, que l'on soit assis sur une chaise, les jambes pendantes, ou à la turque, les jambes croisées, on pose l'instrument sur la cuisse gauche, la peau en avant, légèrement tournée vers la droite. On appuie le bas du renflement sur la face interne de la cuisse et l'on cale le col entre le bras et le creux de la hanche, pendant que la main droite frappe à plat le centre de la membrane pour marquer les accents principaux du rythme, les doigts de la main gauche appuyés sur le bord du cercle de peau, tambourine pour produire des fioritures de remplissage. Une chiquenaude appliquée de temps à autre au centre du cercle avec la main droite constitue un élément de surprise ou un signal de changement de rythme ou de mouvement.